très bonne question pour vous. Comment pouvons-nous comprendre le sens réel du Cantique des Cantiques? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse que tous ont besoin d'entendre, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je pense qu'on va pouvoir comprendre davantage la profondeur de l'amour de Dieu à travers l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui. Vous allez en avoir un petit aperçu simplement en entendant les questions que voici. Qu'est-ce que le Cantique des Cantiques nous révèle au sujet du mariage? Qu'est-ce qu'il nous révèle au sujet de la relation entre Jésus-Christ et son Église? Qu'est-ce qu'il nous révèle au sujet de la relation entre Jésus-Christ et un croyant? Qu'est-ce qu'il nous révèle au sujet de l'amour physique? Se peut-il qu'on puisse voir Jésus qui nous fait une invitation à travers le Cantique des Cantiques? Est-ce qu'on peut entrevoir le retour de Jésus dans ce livre? Est-ce qu'il nous enseigne ce qu'est la soif de la présence du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut y apprendre ce que c'est de dégager l'odeur de Jésus? Qui peut être touché par le Cantique des Cantiques? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à répondre à toutes nos questions. C'est ce qu'il fera dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, merci pour ce beau livre, le Cantique des Cantiques. On peut tellement y voir ton grand amour pour nous. Enseigne-nous aujourd'hui. Apprends-nous à t'aimer en retour. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons introduit le Cantique des Cantiques. Je vous ai expliqué que ce livre nous enseigne quatre grandes vérités. Je vais les relire, et ensuite nous allons poursuivre avec l'introduction du livre. À la prochaine émission, nous débuterons avec le premier chapitre du Cantique des Cantiques. Alors, allons-y avec cette première vérité, le Cantique des Cantiques glorifie l'amour dans le mariage. Le mariage est une relation sacrée, et il a été institué par Dieu. Ce livre démontre ce qu'est le véritable amour. Les Juifs enseignaient qu'ils révélaient le cœur d'un mari comblé et d'une épouse dévouée. Il y a quelques décennies, nous avons vu apparaître un mouvement en faveur de la liberté sexuelle et de nombreuses personnes croyaient que cela serait bon. Cependant, de nombreux individus sont aujourd'hui esclaves de la pornographie et du péché sexuel. Un chrétien qui fait de la relation d'aide avec ces gens m'a dit: ceux qui sont dépendants du porno et du péché sexuel en ont honte. Ils en sont malheureux, et de nombreux mariages sont ruinés à cause de cette dépendance. Certains perdent leur emploi, car ils regardent du porno sur leur ordinateur pendant les heures de travail, et leur productivité baisse au point d'attirer l'attention de leur patron. Ils ne sont pas valorisés par cet esclavage, mais au contraire, ils se haïssent et se méprisent. Un dépendant du péché sexuel sait qu'il n'y trouve pas le contentement de son âme, car chaque expérience le laisse toujours sur sa soif spirituelle. Notre jeunesse est orientée vers l'aspect sexuel, mais elle n'en connaît pas tant que cela sur ce sujet. Certains n'en connaissent pas plus qu'un animal. Notre génération en sait beaucoup au sujet des relations sexuelles, mais très peu au sujet du véritable amour. Les gens connaissent le concept hollywoodien de l'amour, et ils pensent tout savoir à ce sujet. Les artistes qui se marient et divorcent à plusieurs reprises ne savent pas ce qu'est le véritable amour et ils sont incapables de le cultiver. Plusieurs se suicident, car leur âme n'a jamais été comblée. Le contraste entre les idées contemporaines et le concept de l'amour marital du Cantique des Cantiques est frappant. Deuxième grande vérité, ce livre démontre l'amour de Dieu pour Israël. Ce n'est pas une nouvelle pensée que l'on retrouve exclusivement dans ce livre. Les prophètes comparaient Israël à l'épouse de Dieu. Le prophète Osée développe ce thème. L'idolâtrie en Israël est comparée à de l'adultère, et c'est le péché le plus grave, selon le prophète Osée. Les scribes et les rabbins d'Israël enseignaient ces deux interprétations. L'Église les accepte. Cependant, elle en a ajouté deux autres. Troisième grande vérité, le Cantique des Cantiques illustre la relation entre Jésus-Christ et son Église. Le Nouveau Testament compare la relation entre le Seigneur Jésus et son Église à la relation idéale entre Marie et sa femme, Éphésiens chapitre 5, ainsi que Apocalypse chapitre 21. Cependant, dans ce livre, Dieu utilise la relation entre un homme et une femme pour nous illustrer son grand amour pour l'Église. C'est ainsi qu'il a choisi de s'adresser à notre intelligence obscurcie, à nos cœurs morts, à nos affections déréglées et à notre volonté désorientée. Il utilise le meilleur exemple d'amour humain pour nous aider à percevoir son amour merveilleux pour nous. Ce livre peut vous entraîner dans une glorieuse et merveilleuse relation avec le Seigneur Jésus, une relation profonde que vous n'avez jamais connue jusqu'ici. Mes amis, aujourd'hui nous avons un grand besoin de connaître les Écritures et de développer une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ. Je crains que de nombreuses personnes ne sachent pas ce qu'est une véritable relation avec le Seigneur Jésus. Quatrième grande vérité, ce livre illustre ce qu'est une relation personnelle et intime entre Jésus et un chrétien. Il démontre l'amour du Seigneur pour les individus ainsi que la communion entre son âme et le Seigneur Jésus. De nombreux croyants ont connu une telle relation avec leur Sauveur. L'apôtre Paul pouvait dire « Au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Citation de Galates, chapitre 2, verset 20. Samuel Rutherford passait des nuits entières dans la prière. Sa femme se réveillait la nuit et constatait que son mari n'était plus près d'elle. Elle se levait et le trouvait en train de prier. Il faisait cela même pendant des nuits froides. Elle prenait un manteau chaud et le jetait sur ses épaules. Des hommes tels que Dwight L. Moody et Robert McChenney ont connu du très haut degré d'intimité avec le Seigneur Jésus. Ils avaient une véritable relation personnelle avec lui. Ce n'est pas une deuxième expérience comme certaines personnes le pensent. C'est beaucoup plus qu'une relation. C'est une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ dans lequel nous percevons combien merveilleux et glorieux il est. Nous devons en arriver au point où nous affirmons que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ouvrir notre Bible au Cantique des Cantiques équivaut à briser un vase d'albâtre, comme l'a fait Marie, pour verser le parfum qu'il contenait sur la tête de Jésus et laver ses pieds. J'ai confiance que l'odeur agréable du parfum remplira nos vies et en attirera d'autres à Jésus-Christ. Le Cantique des Cantiques présente un concept différent de l'amour que celui de l'ascétisme. L'ascétisme considère de qui est matériel et physique impur, et ce qui est spirituel bon. Le Cantique des Cantiques présente l'amour physique non comme quelque chose d'impur, mais quelque chose de merveilleux, mais qui doit être réservé pour le mariage. Le Cantique des Cantiques ne sombre pas dans l'hédonisme, qui est une philosophie de la recherche du plaisir. Ce sont des incroyants ou des chrétiens charnels qui affirment que le Cantique des Cantiques est un livre sale. À la dernière émission, nous avons parlé de la Sulamite. Elle était une jeune fille, peut-être la cendrillon de la famille. Elle devait garder le vignoble ainsi que les troupeaux. Puisqu'elle travaillait au soleil, elle était bronzée. Être bronzée n'était pas un signe de distinction. Être bronzée signifiait qu'une personne travaille, alors que les femmes de la cour cherchaient à garder leur peau aussi belle que possible. Lorsqu'elle travaillait dans le vignoble ou qu'elle gardait les troupeaux dans les collines d'Éphraïm, la Sulamite devait voir les caravanes passer. Parfois, des femmes de la cour devaient voyager, et la Sulamite les apercevait protégées du soleil par un baldaquin revêtu de vêtements en satin et parés de bijoux. À la dernière émission, nous vous avons laissé alors qu'un berger, qui était un bel homme, rencontra la Sulamite et tomba amoureux d'elle. La jeune Sulamite donna finalement son cœur à ce berger. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. » Cantique, chapitre 2, verset 3. Jésus vous fait une invitation. Le Seigneur Jésus nous a fait une invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Citation de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Connaissez-vous le repos que Jésus donne? Y avez-vous goûté? Vous reposez-vous en lui? Cette relation avec Jésus-Christ devient de plus en plus merveilleuse avec le temps. Je ne parle pas de pratiquer une religion ou de faire partie d'une organisation religieuse. Je parle d'une relation personnelle fondée sur l'amour entre toi et le Seigneur Jésus. Après qu'il ait répondu à son amour, ils sont devenus follement amoureux l'un de l'autre. Cet amour marital qu'ils ont connu est un des plus merveilleux. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Cantique, chapitre 2, verset 6. Il y avait une relation personnelle fantastique entre ces deux personnes. Il semble qu'il l'ait invité pour un repas un jour alors qu'il passait dans la région. Tout ce qu'elle savait de lui, c'est qu'il était un berger bien en vue. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Cantique chapitre 2, verset 4. La version « Parole de vie » dit « Il me fait entrer dans la salle de fête. Au-dessus de moi, à l'entrée, il a écrit « Amour ». Il était un berger étrange. Il n'est pas venu avec son troupeau. En fait, elle a dû le questionner à ce sujet. « Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi ?» Cantique, chapitre 1, verset 7. Où se trouve le troupeau du berger? Il y a quelque chose d'étrange au sujet de cet homme. Jésus reviendra pour nous. Puis, un jour, il annonce qu'il partira, mais qu'il reviendra. Dans ceci, nous voyons un parallèle évident avec le Seigneur Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous serai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'Évangile selon Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Les jours passèrent et le berger tardait à revenir. La famille de la Sulamite s'est moquée d'elle. Les membres de sa famille lui disaient « Tu n'es qu'une bergère qui s'est laissée charmer et qui est tombée amoureuse. » L'apôtre Pierre a prédit que ceci se produirait aussi dans les derniers temps. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ? » Car « depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 et 4. Avez-vous soif de la présence de Jésus? Cependant, la Sulamite aimait le berger, et elle avait confiance en lui. Il était l'objet de ses rêves. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, et je ne l'ai point trouvé. Cantique, chapitre 3, verset 1er. Permettez-moi de vous poser une question personnelle. Est-ce que Jésus-Christ vous manque? Avez-vous soif de sa présence? Un soir, la Sulamite était étendue sur sa couche et elle a senti une odeur agréable. À cette époque, la coutume voulait qu'un prétendant mette de la myrrhe ou de l'encens dans le trou d'une poignée de porte de celle qu'il aimait. La Sulamite a senti le parfum. Et elle est accourue à la porte. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Cantique, chapitre 5, verset 5. Elle savait que son fiancé était venu. Elle savait qu'il ne l'avait pas oublié. Est-ce que vous dégagez l'odeur de Jésus-Christ, mes amis? Dégagez-vous l'odeur du parfum du Seigneur Jésus dans votre vie. il ne faut jamais se contenter d'astuces promotionnelles religieuses. Que signifie le Seigneur Jésus pour vous présentement? Est-ce que vous dégagez l'odeur de Jésus-Christ? La Sulamite savait que l'homme qu'elle aime n'était pas loin. Le Seigneur Jésus a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu, chapitre 28, verset 20. Lorsque l'apôtre Paul était en prison, il savait que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur Jésus a promis. Et voici cette promesse que nous pouvons lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Un jour, il travaillait dans le vignoble. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Cantique, chapitre 2, verset 15. Elle devait protéger les vignes afin que les petits renards ne mangent pas les raisins. Pendant qu'elle s'acharnait au travail, une colonne de fumée s'approchait sur le chemin. Qui est celle qui monte du désert, comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, et de tous les aromates des marchands? Cantique, chapitre 3, verset 6. Des cris ont annoncé. Voici, le roi Salomon arrive. La Sulamite ne s'est pas souciée. Elle était occupée et elle ne connaissait pas le roi. Puis quelqu'un est arrivé en courant et lui a dit, « Le roi Salomon désire te voir. » Elle a été surprise. Il me demande, « Mais je ne connais pas le roi Salomon. Je ne l'ai jamais rencontré. Que me veut-il donc ?»« C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé semblable à la gazelle ou au faon des biches. » Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Cantique, chapitre 2, les versets 8 à 10. Elle est conduite à Salomon. Et qui est le roi Salomon? Eh bien, il est son berger, et il est venu pour la chercher. Le Seigneur Jésus nous a laissé cette promesse. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean chapitre 10, versets 27 et 28. L'apôtre Paul a déclaré, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Le Seigneur Jésus a promis qu'il reviendrait nous chercher. Car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé. Elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embombe par ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Cantique, chapitre 2, versets 11 à 13. Un jour, le Seigneur reviendra, et il nous amènera hors de ce monde. À quel point êtes-vous attaché au monde? Je répète la question. À quel point êtes-vous attaché au monde? J'ai l'impression que certains d'entre vous s'y sentent tellement bien qu'ils se débrouillent si bien dans notre société affluente que si Jésus-Christ venait les prendre, ils pleureraient tout le long de la route jusqu'au ciel, car ils laisseraient trop de choses derrière eux. Salomon dit à la Sulamite, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher. » Le Seigneur nous place dans les fentes du rocher jusqu'à ce que la tempête passe. Qui te cache dans les parois escarpées? Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix. car ta voix est douce et ta figure est agréable. » Cantique chapitre 2, versets 13 et 14. N'est-ce pas merveilleux? Il me fait entrer dans la salle de fête. Au-dessus de moi, à l'entrée, il a écrit « Amour ». Cantique 2, verset 4. Notre salut est une affaire de cœur. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est cette histoire que nous raconte le Cantique des Cantiques. Un nouveau converti peut trouver ce livre difficile à comprendre, mais ceux qui ont une relation intime avec le Seigneur Jésus l'apprécient. C'est un livre qu'un chrétien mûr savoure beaucoup mieux qu'un nouveau croyant. Ce livre poétique est un produit d'une culture orientale ancienne. Il contient des expressions qui paraissent étranges dans notre culture contemporaine. Il ne faut surtout pas s'en servir pour essayer de toucher le cœur de celle qui fait battre le nôtre. Je ne suis pas certain que votre ami trouverait flatteur de se faire dire « Ah, ma jument, qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. » Cantique chapitre 1, verset 9. Avez-vous déjà essayé ceci? « Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. » Cantique chapitre 4, verset 1er. Les érudits qui n'ont pas goûté à la grâce de Dieu et qui ne sont pas éclairés par son esprit sont incapables d'interpréter ce livre. Ils peuvent à la longue bien interpréter certains textes didactiques qui n'emploient pas de langage imagé. Cependant, ils ne peuvent être touchés par le Cantique des Cantiques et certains n'y voient qu'une histoire sale. C'est malheureux. Ce livre illustre l'amour de Dieu pour Israël, l'amour de Dieu pour son Église et la relation intime qui se développe entre Dieu et un croyant. Le Cantique des Cantiques est une allégorie et cela justifie la place de ce livre dans la Bible. De plus, l'allégorie était couramment utilisée dans la culture orientale. George Burroughs, un commentateur du 19e siècle, a fait remarquer la ressemblance en Salumite et Shelomah, Salomon, qui signifie prince de paix. Selon lui, Sulamite signifie épouse du prince de paix. Ces noms justifient une interprétation allégorique de ce livre. C'est une erreur que de regarder seulement l'aspect humain de cette histoire d'amour. Cependant, il faut aussi éviter l'autre extrême qui consiste à pousser trop loin l'allégorie et chercher une signification spirituelle à chaque petit détail. Si l'on pousse l'allégorie trop loin, nous ruinons la force et l'élégance du texte et du symbole. Demandez à l'Esprit de vous éclairer lorsque vous étudiez la Bible. Si vous éprouvez de la difficulté à considérer le caractère spirituel de ce livre, la solution ne se trouvera pas dans une discussion technique. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer alors que nous étudierons le livre. Jésus a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Citation de l'évangéliste Jean, chapitre 12, les versets 13 et 14. Lorsque l'Esprit nous enseigne, notre connaissance n'est plus simplement intellectuelle, mais elle touche notre cœur et transforme notre vie. Nous oublions trop souvent que nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit pour comprendre le sens spirituel des Écritures, et nos études de la parole deviennent un simple exercice intellectuel. Cependant, l'étude de la Bible devrait toujours être l'occasion d'un face-à-face avec Dieu, un temps d'intimité avec Lui. Prochaine émission, chapitre 1, versets 1 à 4.
Merci, Régent. En entendant ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui dans le Cantique des Cantiques, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de réaliser davantage à quel point Dieu m'aime. Mes amis, on a vu l'amour de Dieu pour Israël, l'amour de Jésus pour son Église et pour chaque croyant qui lui appartient. Jésus aime avoir une relation personnelle et intime avec chaque membre de son Église, chaque croyant. Chaque jour, je remercie Dieu d'avoir donné son Fils unique qui est venu donner sa vie sur la croix pour moi. Mais il y a certains jours où mon cœur brûle davantage au-dedans de moi quand je lui dis merci. Mais chose certaine, je sais qu'il est important pour moi de cultiver cette relation avec mon bien-aimé Sauveur. Deux fois par jour, je prends un temps particulier avec lui. Je prie, je chante un cantique, je lui demande de parler à mon cœur par sa parole, c'est-à-dire par la lecture et la méditation de la Bible. Quelle joie de goûter à la présence du Dieu vivant. Quand un individu ne connaît pas encore le Seigneur Jésus, eh bien, il l'appelle par la bouche d'un enfant de Dieu, par son esprit qui le convainc qu'il est un pécheur perdu, qui a besoin de placer sa confiance en Jésus seul pour être pardonné, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Et quand un individu connaît déjà le Seigneur, l'ayant reçu comme Sauveur et Seigneur, eh bien, le Seigneur l'appelle à communier avec lui, à entrer en relation intime avec lui. Quelle joie! Mon ami, tu es peut-être un croyant, une personne qui a reçu le salut par grâce, le cadeau de la vie éternelle. Et peut-être que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Mais que tu le sois ou non, Jésus t'appelle en ce moment. Comme Réjean l'a mentionné au cours de l'émission, Jésus te fait une invitation qui est citée dans le livre de Matthieu au chapitre 11, verset 28. Et j'aimerais y ajouter les versets 29 et 30. Ce sont des versets qui me font souvent beaucoup de bien. Et je t'encourage à oublier que c'est moi qui les lis, parce que c'est Jésus qui va te parler à travers ma voix. Voici ce qu'il dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Mon ami, il y a tellement de choses qui peuvent nous accabler dans le siècle où nous vivons, tellement de stress, de choses pour nous troubler, nous inquiéter. Mais Jésus nous invite à nous réfugier dans sa présence. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, s'il n'est pas encore ton sauveur personnel, écoute l'invitation qu'il te fait dans le troisième livre de l'Apocalypse au verset 20. Il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, tu as besoin du Seigneur Jésus. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. C'est pour toi qu'il a tant souffert. Tu es un pécheur perdu. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Il veut te la donner. Il veut te l'accorder gratuitement maintenant.
Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.